Je vous invite sans plus tarder à ouvrir la parole dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. Mais avant de lire ce passage, je vais vous poser une question. Première épître de Pierre, chapitre 2, ça sera notre première lecture. Alors, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour vous sur la terre? Alors, bien sûr, sans parler du Seigneur Jésus et de la foi, et etc. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour vous dans les choses d'ici-bas? Alors, j'entends pas. J'entends rien. Il y a rien de précieux pour vous?
Les enfants.
Ah, voilà. Les enfants. J'ai entendu quoi? Les parents, oui. Pour ceux qui sont mariés, il y a peut-être qu'une réponse évidente. Votre épouse, votre époux, nos enfants, notre famille, bien sûr, etc. Pour les célibataires, peut-être que c'est leur voiture qui est le fruit de tout leur désir. Peu importe, peut-être c'est notre maison qui a tellement de prix à nos yeux, combien on se sent bien quand on rentre chez soi, quand on est en hiver, qu'on allume la cheminée, qu'on se retrouve dans ces moments-là. Mais qu'est-ce qui se passerait si on vous enlevait rien, sauf ce qui vous est précieux? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous serez heureux si on enlève que ce qui est précieux pour vous? Et que vous avez tout le reste, on vous donne toutes les richesses de ce monde. Et qu'on enlève vos enfants, votre époux, votre famille, etc. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur qui fait qu'il y a une tristesse profonde. Et maintenant, si on fait le contraire, si on vous prive de tout, mais qu'on vous laisse que ce qui est précieux à vos yeux, alors c'est pas grave, peu importe ce qui peut se passer, tant qu'on a notre famille, tant qu'on a ce qui est cher à notre cœur, on peut traverser toutes les épreuves. Vous savez, c'est dans ce but que l'apôtre Pierre a écrit les deux lettres qui sont dans les épîtres de Pierre, donc 1 Pierre et 2 Pierre. L'apôtre Pierre les a écrites dans le chapitre 1er, il est dit à tous ceux qui sont dispersés dans l'Asie. Et les gens ont connu une épreuve, ils ont connu la persécution, ils étaient obligés de s'en aller de chez eux, d'abandonner leur maison, de se disperser un peu partout. Et même dans ces endroits où ils se sont retrouvés, ils ont connu la persécution encore. Et Pierre a choisi d'écrire ces épîtres pour encourager ces chrétiens, pour fortifier ces chrétiens. Et en particulier, à 5 reprises, il emploie l'expression « précieux » ou « précieuse ». Il leur dit de fixer leurs yeux sur ce qu'ils ont qui est précieux, afin qu'ils soient encouragés et fortifiés. Ce soir, je voudrais qu'on puisse faire la même chose, fixer nos yeux sur ces choses-là qui nous sont précieuses à nous. Est-ce qu'on a besoin d'être encouragé ce soir? Est-ce qu'il y a des moments où on n'a pas besoin d'être encouragé? Il n'y en a pas beaucoup. Mais je crois que jour après jour, et plus la fin des temps approche, plus on aura besoin de prendre courage. Et la parole de Dieu est ce moyen que le Seigneur a permis que nous puissions avoir pour être encouragés. C'est pour cela que nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, de Jésus, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. La première chose qu'il nous faut faire, si nous voulons reprendre courage, si nous voulons obtenir aujourd'hui le courage que le Seigneur veut nous donner, ce soir en particulier, c'est de fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est qualifié par l'apôtre Pierre d'une cette pierre qui est précieuse. L'apôtre Pierre, il fait que citer des passages d'Ésaïe, de l'Ancien Testament, des prophéties qui se sont accomplies. Et il y a ce commandement qui est donné ce soir, mais qui est donné dans cette lettre, mais pour nous ce soir, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de lui plutôt. Pierre vivante. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs qualificatifs qui sont donnés par rapport à cette pierre à laquelle il faut s'approcher. Vous comprenez bien que ce n'est pas un objet, ce n'est pas une statue en pierre que l'apôtre Pierre parle. Mais il est question de cette comparaison. La pierre, c'est quelque chose qui est stable, qui est ferme. Il y a des constructions qui sont faites en pierre, qui sont bien faites et qui résistent au temps. Et à combien plus forte raison, de manière spirituelle, Jésus est cette pierre qui est là, inébranlable, éternelle. Le premier qualificatif qui est employé, c'est cette pierre vivante. Jésus est celui qui est vivant, qui n'est pas resté au tombeau, mais qui est toujours vivant aujourd'hui. Il est ressuscité des morts et il peut nous apporter, parce que lui a remporté la victoire sur la mort, il peut nous apporter la vie. Christ, il est la pierre choisie. Vous savez que Dieu a choisi, dès avant la fondation du monde, avant même que le monde soit créé, avant même qu'il y ait le moindre atome de nos cellules à nous qui soit constitué, Dieu avait choisi Jésus. Jésus était cette pierre choisie de Dieu qui devait servir de sacrifice, qui devait servir de rançon pour le prix de notre péché. Christ est cette pierre précieuse, justement. C'est ce qu'il est dit dans ce passage. Et j'aime cette expression, me dire que Christ, c'est la pierre précieuse, ce qui déplace tous mes trésors. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, que nous voulons faire de notre Dieu notre trésor. Est-ce que c'est le cas? Lucas nous a posé la question tout à l'heure, mais combien c'est important. On ne peut pas lire ce passage, dire oui, Christ est la pierre précieuse, et puis pas en faire le désir de notre cœur, le désir de toutes nos attentions. Si je vous disais que juste dans la rue, j'ai posé un diamant de plusieurs milliers de carats, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous attendriez gentiment la fin du message en priant que personne ne passe à ce moment-là? Ou est-ce que gentiment, discrètement, vous feriez semblant d'aller aux toilettes, mais en fait vous irez cueillir le diamant? Bon, on comprendrait pourquoi si je faisais l'annonce maintenant. Mais je n'ai pas les moyens de le faire, je suis désolé. Mais par contre, j'ai les moyens de vous parler de la pierre précieuse que Dieu a choisie. Dieu a choisi cette pierre précieuse et a choisi de nous la donner et a choisi que nous puissions avoir ce sentiment particulier. Tout à l'heure, aux instructions pour le baptême, on posait cette question, qu'est-ce que c'est chercher Dieu? Et quand on a réalisé que Dieu, c'est notre trésor, alors on cherche Dieu comme un trésor. Et on a ce zèle, on a cette ferveur, on a cette envie de passer du temps avec lui. Des fois on est là, on essaye de prier, on essaye de lire la parole, et on se force, et on s'évertue, et on essaye de... Et c'est comme ça que ça passe. Mais ça ne vous apporte rien de spécial. Mais quand on a compris que c'était notre trésor, ce qu'il y avait de plus précieux pour nous sur cette terre, est-ce que Jésus est précieux pour nous? Quelle question! Celui qui est le seul moyen pour être sauvé, est-ce qu'il est précieux pour nous? Ben oui. Quand on a compris qu'il est le seul chemin qui nous conduit au Père, quand on a compris qu'il est la vérité, quand on a compris qu'il était la vie, alors combien on comprend qu'il est précieux pour nous? Mais Christ est aussi une pierre d'achoppement. C'est ce qui est donné dans ce passage. À l'époque de Jésus, justement, les Juifs qui étaient là, qui étaient tellement remplis de religion, ils se sont heurtés contre cette pierre d'achoppement. Eux qui attendaient un roi splendide qui allait les délivrer, ils ont trouvé un serviteur qui faisait du bien sûr, mais qui allait voir que les hommes qui étaient pécheurs, qui allait rendre service à ces personnes, qui accueillait ce que tout le monde rejetait, et ils se sont heurtés contre cette pierre d'achoppement. Et au lieu d'accueillir leur roi, ils l'ont rejeté. Et devant la pierre que le Seigneur dresse devant nous ce soir, nous devons nous approcher, mais à un moment donné, nous devons prendre position. Est-ce que je choisis d'accepter que Jésus devienne la pierre principale de ma vie, la pierre de fondement de ma vie, ou est-ce que je la rejette, cette pierre? Vous vous souvenez ce qu'a dit l'apôtre Pierre, justement? Est-ce que l'apôtre Pierre, avant de parler de cela, est-ce qu'il a connu des temps de découragement, lui? Est-ce qu'il a connu des temps de déception? Oui. Et est-ce qu'il est resté comme ça, les bras baissés, la mine défaite? Ou est-ce qu'il n'a pas laissé le Seigneur faire son œuvre dans son cœur, par la repentance, Seigneur, pardonne-moi? Et quand on lit le livre des Actes, on a vite fait de comprendre que l'apôtre Pierre, il avait réglé tout ce qu'il fallait. Et c'est pour cela qu'il peut ce soir nous donner ses conseils par rapport à regarder ce qui est précieux. Et justement, à un moment donné dans sa vie, quand Jésus posait la question « Qui dit-on que je suis ?» Vous vous souvenez ce passage? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut le lire dans Matthieu chapitre 16, vous gardez toujours un Pierre. Mais Matthieu chapitre 16, au verset 13,
C'est ce moment où Jésus pose cette question. Qui dit-on que je suis ? Et les disciples qui répondent un peu ce qu'ils ont entendu dans le voisinage, dans la foule qui était là autour. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Vous avez vu cette parole, cette déclaration de Pierre ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand nous avons compris que nous devons nous approcher de Jésus-Christ, mais non seulement nous approcher, mais faire de lui la pierre principale, le fondement de notre construction, c'était ça à quoi servait la pierre de l'angle. À l'époque, c'était la pierre qui servait de fondement dans les constructions. Il y avait toute une cérémonie qui était faite quand cette pierre était posée. Et après, on pouvait construire tout le reste. Est-ce que Jésus est la pierre principale ? Quand l'apôtre Pierre a répondu, inspiré par le Saint-Esprit, il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ah, ça voulait pas dire qu'il était parfait ? Puisqu'on voit juste après, il s'est trompé dans ses paroles, il était mal inspiré. Mais en tout cas, il a fait cette déclaration et il avait ce désir que Jésus soit le fondement de sa vie. Et Jésus a donné cette parole. « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Alors, est-ce que c'est sur l'apôtre Pierre que Jésus a bâti son Église ? Est-ce que c'est sur un homme ? Mais non. C'est sur un homme qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Donc c'est sur cette parole que cet homme il a eue, sur l'annonce de l'Évangile, que Jésus est le Christ. C'est sur cette parole-là que l'Église peut être bâtie. Christ est la pierre angulaire. Est-ce que nous voulons faire de Christ celui qui est le fondement de notre vie ? Regardez dans 1 Pierre, on revient à 1 Pierre, verset 17. C'est pour cela que c'est précieux. Parce que quand on a mis notre foi dans le Christ, alors notre vie peut commencer à se bâtir. On voit tellement de gens qui veulent bâtir leur vie, qui montent même des monuments incroyables, mais qui n'ont aucun fondement. Le résultat, c'est qu'à la moindre tempête, vous connaissez les images du Seigneur, quand la tempête arrive, tout est emporté. Mais celui qui a bâti sa vie sur le fondement, sur Jésus-Christ, il tient bon. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 17, « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas avec des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Christ est précieux, Christ est cette pierre précieuse que nous devons, qui doit être au centre de notre vie, mais nous devons fixer nos regards, c'est ce qu'il était dit dans ce chant, de toujours avoir pour seul thème la croix. Le sang de Jésus-Christ est précieux. Est-ce que pour vous le sang de Jésus-Christ est précieux ? Bien sûr, ce n'est pas de manière physique, mais c'est le symbole du sacrifice de Jésus à la croix. Comment est-ce qu'on démontre dans notre vie que le sang de Jésus est précieux ? Est-ce que c'est une cérémonie bizarroïde qu'il faut faire ? Mais non. Et quand quelqu'un accepte d'être sauvé, pas par ses œuvres, mais parce que Jésus a payé le prix et a versé son sang, mais là, il montre que le sang de Jésus est précieux pour lui. Et il se rend compte que son âme pécheresse qui méritait la mort est passé des ténèbres à la lumière parce qu'il a accepté ce sacrifice, il a mis sa foi dans ce sacrifice. Mais pour le chrétien qui a déjà expérimenté cela, est-ce que le fait de bénéficier du pardon de Dieu jour après jour pour marcher de plus en plus dans la sainteté, est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de montrer, de manifester que le sang de Jésus est précieux pour nous ? Bien sûr, il ne faut pas se cacher derrière les excuses. Je sais que Dieu pardonne, donc je peux pécher.
Vous savez qu'on entend des fois ce discours. Mais, des fois, on ne veut tellement pas entendre ce discours qu'on est à l'extrême opposé. Combien de fois le Seigneur Jésus a-t-il dit qu'il fallait qu'on pardonne notre frère? 70 fois, 7 fois. D'accord? Par jour. Ça fait à peu près toutes les 3 ou 4 minutes, je crois. Donc ça, c'est pas mal. Mais est-ce que si Dieu il demande ça des hommes envers les hommes, est-ce que vous pensez que lui, il est capable de le faire envers nous? Il peut le faire largement et même bien plus. Et je crois que quelqu'un qui vient, même si c'est toutes les 4 minutes, mais de tout son cœur, qui revient repentant, qui demande pardon à son Seigneur, et à cause du fait que le sang de Jésus est précieux, il est capable d'être pardonné. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu est bon, riche en compassion, lent à la colère, riche en miséricorde, etc.? Si je tombe 100 fois, je me repens, le Seigneur, il me pardonne 100 fois. Amen. Est-ce que ça ne nous rassure pas? Bien sûr qu'il y a des péchés, le Seigneur instantanément, il nous délivre quand on se convertit, il y a quelque chose qui se passe, transformation, la vie nouvelle qui coule dans notre sang, et il y a une transformation merveilleuse, il y a des habitudes qu'on avait, on les a plus du jour au lendemain. Mais il y a ce travail progressif de la sainteté dans notre vie qui fait que des fois ça prend du temps. Et des fois on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais le Seigneur est à l'œuvre. Et hier en parlant avec une personne, j'ai eu cette image qui m'est venue. Imaginez une balance. Une balance sur laquelle on met sur un côté de la balance un vase vide. Et sur un autre côté, on met un poids, quelques briques. Et petit à petit, on verse de l'eau dans le vase. Ben, les premiers temps, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien en apparence. Mais le niveau du vase, il monte. Et puis on remplit par à coup. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Quand le niveau d'eau est assez important, que le poids est conséquent, ça bascule. Et c'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un qui est en lutte avec un péché, quelqu'un qui, peut-être ça fait des années qu'il se bat avec un péché, et qui, à chaque fois, il se repent envers le Seigneur, et il ouvre son cœur à nouveau au Seigneur, parce que toutes les fois qu'on pêche, notre cœur il se ferme, l'eau elle ne peut plus rentrer, la force du Seigneur ne peut plus rentrer en nous. Mais toutes les fois qu'on se repent et qu'on remet notre vie en règle, alors le niveau il monte, et à un moment donné, la puissance de la croix fait que, la puissance de l'œuvre de Jésus à la croix fait que on peut surmonter le péché, on peut vaincre le péché. Est-ce que Jésus a remporté la victoire à la croix? Amen. Donc, ça veut dire que s'il a remporté la victoire, depuis 2000 ans, il n'y a plus de péché sur la terre. C'est ça? Pourtant, il a remporté la victoire sur le péché. Mais les hommes n'ont pas ouvert leur cœur à cette victoire. Et des fois, dans nos propres vies, nous qui connaissons déjà le Seigneur, il y a des péchés qui sont là, qui ont besoin d'être vaincus, et nous avons besoin d'avoir cette attitude. Et des fois, parce qu'on a péché, moi ça m'est arrivé, quand j'étais jeune étudiant, je péchais, et je me culpabilisais tellement que je pensais qu'il fallait que j'aille à toutes les réunions, et que je lise tous les jours la parole, et que je prie, avant que le Seigneur puisse me pardonner. J'essayais de mériter mon pardon. Maintenant, je vous pose la question, à quel moment est-ce qu'on mérite le pardon de Dieu? Jamais. Le pardon de Dieu, il est gratuit. Et il est que pour celui qui se repent, bien sûr. Mais le pardon de Dieu, on ne le mérite jamais. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, même si je pêche, la seconde après où je pêche, je ne veux pas perdre plus de temps. Je veux, Seigneur, ouvrir mon cœur à nouveau à ta grâce. Bien sûr, je ne veux pas pêcher de manière, comme l'on le disait tout à l'heure, pêcher et puis dire, Seigneur, tu vas me pardonner. Non, mais je veux, Seigneur, régler les choses afin d'être inspiré de toi. Le pardon nous pousse à craindre le Seigneur. Vous savez qu'il y a ce texte dans les psaumes, je ne sais plus, je crois que c'est 130. Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Toutes les fois que notre cœur demande pardon au Seigneur, il y a une œuvre qui se fait, qui fait que la crainte de Dieu augmente en nous. Est-ce que vous voulez craindre de plus en plus le Seigneur? Il n'y en a pas beaucoup. De toute façon, c'est entre vous et Dieu. Peu importe les décibels. Mais vous savez que quand j'emploie le pardon dans ma vie, le pardon de Dieu, hein, quand je demande pardon au Seigneur, pardonne-moi pour ceci, pour cela, de tout mon cœur, la crainte de Dieu augmente. Et c'est exactement ce qu'il était dit dans ce passage. Si on a une image réelle de la valeur du sang de Jésus-Christ, conduisez-vous avec crainte dans votre pèlerinage d'ici-bas. Est-ce que nous nous conduisons avec crainte? Et je continue sur cette pensée, parce que ça parle du domaine personnel, le pardon, quand on est tout seul dans notre chambre. Mais j'ai remarqué que on est tombé à notre époque dans un piège au niveau de la Sainte-Seine. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment donné, parce qu'on a lu ce passage, on a lu « Celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre nous-mêmes ». Et donc, automatiquement, la logique humaine a fait que, ben, pour pas que j'ai de jugement, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Vous avez déjà remarqué ça? Moi, j'ai déjà pratiqué, hein, je vous l'avoue. Voilà, je suis le premier pêcheur. Mais je l'ai remarqué, et le Seigneur m'a montré que c'était une erreur totalement. Parce que celui qui pêche et qui, au moment de la Sainte-Seine, se rend compte qu'il est pêcheur, il ne veut pas prendre le jugement. Est-ce qu'en ne prenant pas la Sainte-Seine, il n'est pas quand même jugé? Celui qui est dans le péché, est-ce qu'il n'est pas sous le jugement? Ben oui. Et ce n'est pas parce que je m'abstiens de la Sainte-Seine que je ne suis pas jugé. Je suis sous le jugement du péché. Bien sûr qu'il faut prendre... Si j'ai un péché conscient dans ma vie et que je prends la Sainte-Seine volontairement, je fais n'importe quoi. Mais est-ce que le moment de la Sainte-Seine, ce n'est pas l'occasion de dire « Oui, Seigneur, ton sang est précieux. Ton sang est puissant pour me libérer de ce péché qui est là comme un obstacle dans ma vie, comme quelque chose qui m'emprisonne. Et au moment de la Sainte-Seine, au lieu de m'abstenir, je dis « Seigneur, je veux déclarer ta victoire. Je veux déclarer que tu es puissant pour me pardonner. » Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on devrait réagir? Bien sûr, nous, on n'est pas là. Vous inquiétez pas. On va pas. Si vous ne vous levez pas à la Sainte-Seine, on n'est pas là pour venir vous contrôler, demander la carte d'identité, etc. Mais, frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas sérieux, cette affaire? Le fait de reconnaître que le sang de Jésus est précieux, est-ce qu'à ce moment-là, peut-être que j'ai laissé toute la semaine, je n'ai pas profité de ces moments de communion personnelle avec le Seigneur pour régler les choses, est-ce que ce moment-là, ce n'est pas l'occasion de le faire? Le meilleur de tous, à la limite. Est-ce que le sang de Jésus est précieux pour nous? 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Et il est dit dans une autre version, à ceux qui ont reçu en partage une foi aussi précieuse que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Est-ce que la foi est précieuse pour vous? L'apôtre Pierre, dans ce passage, il compare, il dit, vous avez reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. Est-ce que la foi de l'apôtre Pierre était sympa, était bien? Est-ce qu'il avait la foi, cet homme? Bon, je vous invite à relire les actes et voir tout ce qui s'est passé, comment il a pu être un intermédiaire pour bénir cet homme qui était boiteux, pour ressusciter des personnes, pour à un moment donné, il passait dans la rue, et rien que l'ombre qui touchait ces personnes, ça faisait en sorte qu'elles étaient guéries. Il avait quand même un peu de foi, un petit peu, reconnaissez-le. Aidez-moi un petit peu ce soir. Bon, et il nous dit, à vous qui avez reçu une foi aussi précieuse, c'est-à-dire qu'il dit que cette foi qu'il a pu expérimenter, lui, Pierre, qui a renié le Seigneur, mais qui a réglé les choses, et qui a été utilisée de manière tellement bénissante, cette foi-là, nous pouvons l'expérimenter aussi. Comment notre foi est-elle précieuse? Qu'est-ce qui fait que notre foi est précieuse? Ben, c'est simplement celui en qui nous croyons qui est précieux déjà. C'est celui qui est l'objet de notre foi. Vous savez que sur la terre, tous les hommes, ils ont la foi. Mais pas tous les hommes ont la foi qui sauve. Les hommes ont la foi en la science, ils ont la foi dans l'argent, ils ont la foi dans l'athéisme, et certains ont la foi en Jésus et ceux-là sont sauvés. Mais tous les hommes, Dieu n'a pas créé l'homme sans cette capacité de pouvoir croire. Mais tous les hommes ne croient pas en Jésus-Christ. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, nous savons que notre foi est précieuse parce que Jésus est cette pierre précieuse. Notre foi est précieuse parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que vous voulez être agréable à Dieu? Le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est la foi. Est-ce que la foi est précieuse? Forcément. Si c'est le seul moyen qu'on en a pour plaire au Seigneur, alors notre foi est précieuse. Et regardez cette promesse qui est faite dans ce verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On est dans un monde qui multiplie toutes sortes de choses, mais le Seigneur, dans ce passage, promet à tous ceux qui ont une foi particulière, qui reconnaissent que leur foi est précieuse, ils peuvent être bénis par la paix et la grâce de Dieu. Je réfléchissais à cette façon que l'on a de manifester sa foi, de manière concrète. Est-ce que si je prie dans l'église à haute voix, est-ce que ça veut dire que j'ai la foi? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, pas forcément. Parce que je peux le faire avec une foi sincère, ou je peux le faire de manière totalement hypocrite, en disant, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Vous savez, dans Matthieu 6, quand il parle de la prière, il dit, ne faites pas justement comme les pharisiens qui aiment à prier pour être vus des hommes. Ils prient au coin de la rue, comme ça tout le monde les voit et ils reçoivent la gloire des hommes. Mais quand vous priez, ce qui va montrer que vous avez vraiment une foi vivante en Dieu, c'est à quel moment? C'est quand vous allez dans votre chambre, dans le lieu secret. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui vous voit? Est-ce que là, le pasteur, il peut vous dire, c'est bien, vous progressez, vous êtes fidèle? Dans le lieu secret, il n'y a personne qui vous voit, sauf le Seigneur. Est-ce que le fait de prier dans le lieu secret, ce n'est pas un moyen de manifester à Dieu, à personne d'autre que Dieu, notre foi? Et combien on passe souvent à côté de ces moments-là? Je me souviens de ces temps dans ma vie personnelle où je connaissais le Seigneur, j'allais à l'église, mais je n'avais aucune communion avec le Seigneur hors de l'église. Et je me souviens que ma vie, ça ne correspondait pas à ce que Dieu attendait. J'étais comme dans une sécheresse spirituelle. Pourtant, j'écoutais la parole, j'écoutais tous ces enseignements. J'avais des amis qui étaient chrétiens. Mais ça ne répondait pas à cette soif qu'il y avait au fond de mon cœur. Et le jour où j'ai accepté de prendre ce temps dans la présence de Dieu, alors cette source d'eau vive abondante du Seigneur, elle s'est mise à couler avec abondance justement. Elle a commencé à remplir tout cela. Et justement, s'il y avait des péchés qui étaient là, qui m'empêchaient d'avancer, le niveau du vase, il a commencé à déborder. Et tous les obstacles, ils ont commencé à sauter tellement la présence de Dieu était là. Frères et sœurs, est-ce que notre foi est précieuse? À quel point notre foi est précieuse? Est-ce qu'elle est précieuse au point de prendre ce temps devant Dieu, dans notre chambre, et d'attendre de lui seulement, d'attendre sa récompense à lui? Vous avez vu ce verset où il est dit que celui qui voit dans le secret, qu'est-ce qu'il est dit? Te le rendra. J'ai toujours aimé ce verset. Parce que souvent on dit qu'il ne faut pas chercher Dieu pour la bénédiction. Mais quand même, il y a des versets comme ça qui nous montrent que quand on cherche Dieu de tout notre cœur, quand on manifeste notre foi de façon concrète, le Seigneur, il fait la promesse qu'il nous le rendra. Le temps qu'on a passé dans sa présence, il nous le rendra d'une façon ou d'une autre pour notre bénédiction, parce que quand on exprime notre foi, quand on montre à Dieu que notre foi est précieuse, alors le Seigneur, lui, il nous montre qu'il est tout-puissant, il nous montre qu'il n'y a rien d'impossible, il nous montre qu'il n'y a aucune situation qu'il ne puisse intervenir, il nous montre qu'il est ce secours qui est toujours là, prêt à nous bénir, que son nom soit béni. Je vous invite à aller dans 1 Pierre chapitre 1er verset 6. Je voudrais quand même qu'on puisse voir les deux derniers points. 1 Pierre chapitre 1er verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. L'épreuve de votre foi. Il y a la foi qui est précieuse, mais il y a l'épreuve de la foi qui est plus précieuse que l'or. Est-ce que, frères et sœurs, nous pouvons considérer les épreuves comme quelque chose de précieux? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui grognent, qui râlent, qui marmonnent dans leur barbe quand il y a l'épreuve? J'aime ce texte parce qu'il dit C'est là ce qu'il fait votre joie que maintenant, puisqu'il le faut. Il y a des fois où il faut l'épreuve. Il y a des fois où il faut les moments difficiles. Vous savez pourquoi ? Parce que le Seigneur a promis que dans ces moments-là, nous pouvions faire un progrès qu'on n'aurait jamais pu faire sinon. Si on n'avait pas traversé l'épreuve, on n'aurait pas pu faire ce progrès-là. David, dans le psaume 119, il dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Est-ce que David, ce n'est pas un homme qui a connu quelques victoires ? Il a connu de belles victoires, déjà rien qu'avec Goliath, mais s'il n'y avait que ça. Même quand il était berger, il était capable de se battre avec le lion, avec l'ours. Pourtant, cet homme a connu aussi des moments où il était humilié, des moments où il était affligé totalement dans l'épreuve. Et dans ces moments-là, il a été capable de décrire ce cantique « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais ». Il a compris le rôle de l'épreuve. Il a compris combien l'épreuve était précieuse. L'épreuve de sa foi, ça permettait de raffiner sa foi, ça permettait de sortir toutes les impuretés et ça lui permettait de faire un progrès. Alors que je visitais une sœur la semaine dernière qui était en train de se poser des questions dans l'affliction, elle me disait « Ah, mais je suis chrétienne, qu'est-ce que je fais dans cette épreuve ?» Mais je lui ai sorti ce texte, je lui ai dit « Mais ma sœur, des fois le Seigneur permet les épreuves pour nous faire un progrès, pour nous bénir encore davantage. » Et alors qu'on partageait ces choses, il y a sa voisine de chambre qui était là, et à laquelle on a pu témoigner, on a pu lui parler du Seigneur, elle a accepté qu'on prie pour elle, elle a accepté de recevoir une Bible, elle a accepté tout ce qu'on partageait avec la sœur, elle a tout écouté, elle était totalement ébahie devant ces choses, et elle a compris, elle a dit d'elle-même, je crois que c'est Dieu qui a permis ces moments-là. Vous voyez que des fois les épreuves, on ne les comprend pas quand on est en plein dedans, mais le Seigneur lui, il sait pourquoi. Elles ont lieu. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, oui, l'épreuve de ma foi, elle est précieuse. Seigneur, je ne veux pas me plaindre, mais je veux, Seigneur, que le résultat, ça soit la louange, ça soit la gloire et l'honneur, que ton nom soit glorifié dans l'épreuve. Quelle gloire va tirer le Seigneur si dans l'épreuve, on se comporte comme les païens ? Si dans l'épreuve, on pleure, on râle, on crie, on fait toutes sortes de choses, on se plaint ? Où est la gloire du Seigneur ? Elle n'y est pas. Mais quand dans l'épreuve, on est de ceux qui tiennent bon, ceux qui ont les regards fixés sur le Seigneur, ceux qui disent « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Ou dans quel domaine tu veux que je progresse encore ?» Eh bien le Seigneur, il est celui qui va nous en délivrer. Il y a quelqu'un qui a dit que quand Dieu permet à son enfant de passer dans la fournaise, Dieu il a les regards sur l'horloge et il a dans ses mains le thermomètre, le thermostat pour régler la température de la fournaise. C'est exactement ce qui se passe. Toutes les épreuves, elles sont totalement sous le contrôle de Dieu. Est-ce que notre foi, justement, va être tellement forte qu'on va dire, Seigneur, je te fais confiance ? Ou est-ce qu'on va faire autre chose ? Je finis avec ce dernier verset dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. C'est un texte qu'on a souvent lu. Il est dit ceci, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus merveilleuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Est-ce que les promesses du Seigneur, elles sont précieuses pour vous ? Est-ce que la parole de Dieu, elle fait brûler votre cœur ? Le simple fait de savoir que vous allez ouvrir la parole de Dieu fait battre votre cœur et vous donne cette soif de savoir ce que le Seigneur veut vous dire. Ou est-ce que vous lisez, comme je l'ai lu longtemps, de manière bien religieuse, mais bien indifférente, cette parole, un chapitre par jour ? Sans réfléchir à ce que Dieu voulait me dire. Nous voulons être de ceux qui lisent le Seigneur avec cette ferveur, avec cette soif. On pourrait lire le psaume 119, pas en entier, je vous invite à le faire à la maison, mais le psaume 119, c'est un cantique qui a été composé pour dire que David, il aimait de manière incroyable la parole de Dieu. On peut y venir quand même lire quelques versets pour que vous compreniez bien que c'est ce qui se passe. Et pour David, il avait compris que la parole de Dieu, les promesses de Dieu, elles étaient précieuses. Il en faisait son livre de chevet. Et quand il se réveillait la nuit, il lisait la parole de Dieu. Quand le jour, il avait un moment, lui qui était bien occupé en étant roi, il lisait la parole de Dieu. Et cet homme a pu écrire des versets qu'on connaît, certains par cœur. Mais combien on a besoin plus que de les connaître, de les vivre. Psaume 119. Verset 7 par exemple, « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. » Verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. » Enseigne-moi tes statuts, de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et on pourrait continuer toutes sortes de choses. Verset 23, « Ton serviteur médite tes statuts, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » On pourrait multiplier les exemples. Mais les 176 versets du psaume 119, ils ne font que dire une chose, que la parole du Seigneur, elle est précieuse. Maintenant, si David en était convaincu, est-ce que nous le sommes ? Est-ce que nous sommes de ceux qui ont soif de cette parole, qui prennent le temps de la lire? Combien on est attristé de savoir que des fois, certaines personnes ne lisent la Bible que quand ils viennent à l'église. Ils ouvrent la Bible que quand ils ne viennent à l'église. Vous imaginez? Si vous ne... Je prenais cet exemple tout à l'heure, mais si vous ne mangez que les fois où vous venez à l'église, vous n'aurez pas un peu faim de temps en temps pendant la semaine? Vous mangez que le mardi soir, le jeudi soir, le samedi si vous êtes à réunion de jeûne, le dimanche, vous mangez 4 fois dans toute la semaine. Combien est-ce que vous mangez dans la semaine? Normalement, c'est à peu près 3 fois par jour, voire 4 certaines fois. Vous imaginez 4 fois 7, 28. Et des fois, on se contente de lire la Bible. Et après, on dit, « Oh Seigneur, exauce-moi, Seigneur, fais-moi du bien. Les promesses de Dieu sont précieuses. » Les promesses de Dieu sont... La parole de Dieu est puissante. Elle nous communique la vie. Elle nous permet de faire tout ce qu'on ne pourrait pas faire sinon. Et combien nous avons besoin d'ouvrir notre cœur, comme nous l'avons chanté dans ce dernier chant, d'ouvrir notre cœur, d'écouter la parole du Seigneur. Si je me tais, alors j'apprendrai à entendre la voix du bon berger. On va justement prendre ce moment où on va fermer les yeux, remettre notre vie devant le Seigneur. Qui ce soir a besoin d'être encouragé? Frères et sœurs, fixez vos regards sur ce qui est précieux, sur ce qui ne bougera jamais, sur ce que le Seigneur a choisi qui était précieux. Suivez les conseils de l'apôtre Pierre ce soir. Fixez vos yeux sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, celui sur lequel on peut fonder sa vie. Vous pouvez avoir une autre raison de vivre. Mais la seule raison de vivre qui vaut la peine d'être vécue, qui ne déçoit jamais, qui ne trompe jamais, c'est le Seigneur Jésus. C'est de vivre pour lui. C'est de reconnaître qu'il est le sauveur de votre âme. Est-ce que le sang de Jésus est précieux pour vous? Est-ce que le sacrifice de Jésus, c'est quelque chose qui, à chaque fois que vous y pensez, vous remue le cœur? Et vous ne pouvez pas penser à cela avec indifférence. Alors vous êtes heureux si vous êtes dans cette situation. Sinon, ce soir c'est l'occasion de dire, Seigneur, oui, je veux accepter ton sacrifice, que ton sang a coulé pour moi. Et Seigneur, je reconnais combien il est précieux. Seigneur, aide-moi à ce que ma foi, Seigneur, je puisse veiller sur ma foi, je puisse pratiquer les œuvres qui correspondent à la foi que je prononce par la bouche. Seigneur, aide-moi à être vrai devant toi. Avoir une foi vivante, Seigneur éternel. Merci parce que tu nous donnes, dans ces instants, la possibilité de regarder à toi, de regarder à ta parole, d'être encore, Seigneur, enflammé par la parole que nous lisons, d'être encore, Seigneur, rempli
de toutes ces choses que tu veux nous dire. Merci pour tes promesses qui sont précieuses. Merci parce que tu nous as donné ces promesses. Et si nous pouvons, Seigneur, ce soir, si nous pouvons les prendre pour nous, c'est parce que nous sommes devenus tes enfants. C'est parce que, Seigneur, par tes promesses, nous pouvons participer à ta nature divine, à cette vie que tu nous as offerte. Seigneur, tu connais le cœur de mes frères et de mes sœurs ce soir. Tu vois celui qui est dans l'épreuve, peut-être la plus difficile. Oh Seigneur, tu as promis que même dans les diverses épreuves, nous devions nous réjouir parce que tu étais avec nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, que nous voyons combien l'épreuve de notre foi est précieuse. Combien, Seigneur, tes promesses sont précieuses. Dans ces instants, tu connais les cœurs. Tu vois celui qui entend ces paroles, mais qui, face à cette pierre angulaire, il en fait une occasion de chute. C'est devenu une pierre d'achoppement pour lui. Seigneur, convainc son cœur. Travaille les cœurs ce soir par le Saint-Esprit. Tu vois celui, Seigneur, qui lutte avec un péché, celui qui essaie par lui-même de se sortir d'une situation depuis tant et tant d'années. Éternel, viens à son secours. Montre-lui que c'est toi la solution. Amen.